Merci d'être à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 17h en temps universel, 18h à Valence.
Victor Moria.
À la une de ce dimanche 3 novembre, la colère des sinistrés espagnols s'est violemment exprimée cet après-midi, alors que le roi Felipe, sa femme Laetitia, le chef du gouvernement et celui de la région étaient en déplacement dans les régions touchées par les inondations. Ils ont reçu insultes et jets de boue et ont dû interrompre leur visite. À deux jours de la présidentielle américaine, le Canada craint un changement de ton en cas d'arrivée de Trump au pouvoir. La majorité de ses exportations vont vers les États-Unis et le candidat républicain menace d'augmenter les taxes de 10%. Situation toujours confuse en Bolivie. Les partisans de l'ex-président Evo Morales détiennent 200 militaires en otage et ce dernier est en grève de la faim pour demander des négociations avec le gouvernement. Enfin, bisbille commerciale entre la France et la Chine. La ministre déléguée au commerce extérieur est à Shanghai pour défendre les exportations françaises de cognac. La colère des sinistrés espagnols est aussi forte que leur détresse. 5 jours après les inondations meurtrières qui ont frappé la région de Valence, visite sous très haute tension pour le roi Felipe VI et la reine Laetitia ce dimanche. Alors qu'ils se rendaient dans la ville de Paiporta, particulièrement touchée par les inondations, le souverain espagnol, sa femme ainsi que le premier ministre Pedro Sanchez et le président de la région Carlos Mazón qui les accompagnait ont reçu jets de boue et insultes. Assassin, a-t-on pu entendre monter dans la foule. Les scènes de chaos ont presque viré à l'émeute. Devant tant de colère, Pedro Sanchez et Carlos Mazón ont rapidement été exfiltrés. Le roi et la reine sont restés 1 heure sur place pour tenter de calmer la colère des manifestants. Mais la délégation a fini par interrompre sa visite. Écoutez ce qu'en dit l'historien Benoît Pellistrandi.
Il faut comprendre que le gouvernement central, et c'est une coalition de gauche avec le Parti Socialiste, et la région de Valence, qui est la 4e région économique de l'Espagne, et qui est une région extrêmement dynamique, est depuis juin 2023 dirigée par le Parti Populaire. Si bien qu'il y a un combat politique entre le Parti Populaire et le Parti Socialiste autour de Valence. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'occasion de cette catastrophe absolument dramatique, le Parti Populaire et le Parti Socialiste ont essayé de profiter de l'occasion pour affaiblir leurs concurrents politiques. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'occasion de cette visite du roi et de la reine, les choses ont dégénéré parce que la présence de Pedro Sanchez et de Carlos Mazón a indigné la population, si bien qu'il y a eu un mouvement de colère à l'égard de ce que représentait l'ensemble de cette visite. On a exfiltré le chef du gouvernement et le chef de la communauté de Valence, et c'est le roi et la reine qui se sont trouvés en première ligne.
Benoît Pellistrandi au micro de Grégoire Motte. Pedro Sanchez reconnaît l'angoisse et la souffrance des sinistrés, mais condamne, je cite, tout type de violence, alors qu'on apprend à l'instant que la province de Valence est de nouveau placée en alerte rouge précipitation. Il pourrait tomber 90 litres par mètre carré en moins d'une heure d'ici ce soir. Benjamin Netanyahou en visite près de la frontière libanaise. C'était il y a quelques heures. Le premier ministre israélien ne s'était pas rendu dans cette zone depuis le 6 octobre. Il y a menacé le Hezbollah de riposte, expliquant que l'objectif était d'éloigner le groupe chiite de cette frontière. Israël qui a intensifié ses frappes ce jour sur des fiefs du Hezbollah au Liban, avec au moins 3 morts côté libanais. L'agence de presse libanaise rapporte également des frappes visant les abords d'un hôpital public à Tebnin, un village du district de Binjbeil. Le maire de Tebnin indique que l'hôpital gouvernemental risque d'être hors service dans les heures à venir du fait des importants dégâts causés par les bombes. Plus au nord, l'armée israélienne appelle de nouveau la population à évacuer la région de Baalbek avant de nouveaux raids. Enfin, sur le plan diplomatique, la Turquie a soumis une lettre conjointe à l'ONU signée par 52 pays dont l'Arabie Saoudite, le Brésil, l'Algérie, la Chine, l'Iran et la Russie. Tous demandent au pays de cesser la vente d'armes et de munitions à Israël car cela revient à participer à un génocide, écrivent-ils. Mort à l'Amérique, mort à Israël. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues ce dimanche en Iran pour célébrer le 49e anniversaire de la prise d'otage de l'ambassade des États-Unis en 1979. Le 4 novembre de cette année-là, moins de 9 mois après le renversement du dernier Shah d'Iran, un groupe d'étudiants partisans de la révolution islamique avait pris d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran, accusé alors d'être un nid d'espions. Les étudiants avaient exigé pour libérer les otages que les États-Unis extradent le Shah afin qu'il soit jugé en Iran. La crise ne s'achèvera que 444 jours plus tard, après la mort en Égypte du souverain déchu. Les 52 diplomates américains avaient alors été libérés. Les enjeux des élections américaines, à deux jours d'un scrutin majeur, le candidat Trump le proclame sur toutes les tribunes. S'il s'installe à la Maison-Blanche, il imposera une taxe de 10% sur les importations et peut-être davantage. Une mesure très importante lorsqu'on sait que chaque jour, les États-Unis et le Canada s'échangent environ 3 milliards de dollars de biens et services. Une promesse qui inquiète les entreprises, en particulier au Québec, où 70% des importations partent vers le territoire américain. Le reportage est signé Pascal Guéricola.
Selon un professeur d'économie de l'Université de Calgary, une taxe supplémentaire de 10% imposée aux États-Unis pourrait faire baisser de 0,9% le revenu réel côté canadien. Au sud de Québec, Boss Atlas, qui fabrique des poutres en acier, vend 80% de sa production aux États-Unis. Son directeur Nicolas Blais songe maintenant à développer le marché intérieur.
On a commencé davantage à faire du démarchage au Québec, puis aussi en Ontario actuellement avec les data centers, les battery plants aussi, toutes les filières de batterie. Donc c'est certain qu'on fait plus de démarchage depuis un an. On a bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer mardi soir prochain.
Une grande partie des exportations canadiennes concerne les automobiles fabriquées à la fois au Canada et aux États-Unis. Yann Simon, spécialiste de ce secteur à l'Université Laval.
Quand on pense qu'un véhicule automobile peut passer la frontière entre 7 et 9 fois entre le Canada et les États-Unis avant d'être fini, donc ça vous donne une idée là, de l'effet multiplicateur de ce que ce fameux 10% là, pourrait avoir pour les automobiles.
Selon lui, l'imposition d'une taxe d'importation nuirait à la compétitivité des voitures américaines, rendant la production européenne et chinoise plus attrayante. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
La tension monte d'un cran entre l'Inde et le Canada depuis qu'un ministre canadien a pour la première fois mis personnellement en cause le puissant ministre indien de l'Intérieur, Amit Shah, et ce dans le meurtre d'un Sikh au Canada en 2023. Le Canada abrite la plus grande communauté Sikh en dehors de l'Inde et compte un grand nombre de militants en faveur d'un État Sikh indépendant appelé le Khalistan. Une cause que défendait l'homme assassiné l'année dernière. Des allégations que l'Inde a qualifiées hier d'absurdes et sans fondement, souvent désignées comme le numéro 2 du pays, Amit Shah, et depuis une vingtaine d'années, le bras droit du Premier ministre Narendra Modi est l'un de ses rares hommes de confiance. En Bolivie, la tension monte aussi dans la région du Chaparral, où 200 soldats sont retenus en otage depuis vendredi par des partisans de l'ex-président Evo Morales. Après avoir appelé à suspendre les blocages déclenchés par ses partisans il y a 3 semaines, ce dernier est en grève de la faim pour obtenir un dialogue avec le gouvernement. Alors comment en est-on arrivé à une telle situation? Élément de réponse avec Gustavo Pedraza, politologue bolivien.
Le Chapare est une région dominée par les cultivateurs de coca qui font partie intégrante de la chaîne du trafic de drogue, de sorte que la présence de l'État a toujours été faible là-bas. Et la prise d'otage est une preuve du contrôle des cultivateurs de coca qui soutiennent Evo Morales. Evo Morales cherche à éteindre l'action pénale contre lui pour viol sur une mineure. Il cherche donc d'abord l'impunité et ensuite il cherche à devenir candidat pour les prochaines élections. Ces deux demandes sont inconstitutionnelles et c'est pourquoi Evo Morales a entamé une grève de la faim. Ce qu'il veut faire avec cette action, c'est montrer qu'il n'encourage pas les blocages afin que le coût politique contre lui ne s'élève pas plus.
Le politologue bolivien Gustavo Pedraza au micro de Camille Bouju. La ministre française déléguée au commerce extérieur, Sophie Prima, se rend ce dimanche et jusqu'à mercredi à Shanghai pour participer notamment à la Foire internationale des importations de Chine. La ministre française tentera de convaincre Pékin d'épargner la filière cognac menacée par de potentielles surtaxes douanières. Agnieszka Kumor.
Le déplacement de la ministre française n'a rien d'un hasard. Il intervient dans un contexte de tension entre Pékin et Bruxelles à cause des droits de douane supplémentaires sur les voitures électriques chinoises entrés en vigueur le 31 octobre dernier. En réponse, la Chine menace de surtaxer notamment les eaux-de-vie, dont le cognac importé de l'UE. La filière cognac s'estime ainsi sacrifiée. La ministre française tentera de convaincre Pékin d'épargner les spiritueux français. Ces taxes seraient en effet potentiellement dévastatrices pour ces professionnels. La Chine est leur deuxième marché à l'exportation derrière les États-Unis et devant Singapour. La foire internationale des importations de Chine à Shanghai est l'un des 4 plus grands salons du monde. Porté par le président Xi Jinping, cet événement majeur attend 800 000 acheteurs chinois et 4 600 exposants venus de 130 pays. La France est l'invité d'honneur et comptera pas moins de de 130 entreprises présentes.
Agnieszka Kumor, c'est la fin de cette édition, 18h10 ici à Paris. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera avec Stéphane Genest à 19h dans moins d'une heure.